RCF.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi RCF, une émission donc qui sera consacrée aujourd'hui à un ouvrage de qualité, un ouvrage de référence, La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, la citadelle à l'époque du dépôt 85. Effectivement, si la citadelle de Besançon est aujourd'hui le site touristique emblématique le plus visité de la capitale, de la Franche-Comté, eh bien le destin de cette fortification militaire au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, est intimement lié à l'histoire nationale. Et dès le 9 octobre 1944, elle prend le vocable de dépôt 85 par décision du ministère de la guerre jusqu'à sa dissolution, la dissolution de ce dépôt en 1948. Anne-Laure Schall, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour un événement historique dont on a très peu parlé il y a quelques années, que vous faites ressurgir grâce à vos études, grâce aussi au travail que vous avez accompli en tant qu'ancienne guide conférencière de la citadelle de Besançon. Je rappelle aussi que vous êtes doctorante de l'université de Franche-Comté et que si on parle beaucoup des fusillés, des résistants qui ont été abattus à la citadelle de Besançon, on parle très peu de ces milliers de prisonniers allemands qui ont séjourné dans cette fortification entre 1944 et 1945. Et c'est grâce à vous, on peut dire, que cet événement ressurgit, c'est bien cela?
Oui. Voilà, l'historiographie jusque-là, tant d'un point de vue local que national, est principalement basée sur l'occupation. Hein, ici à Besançon, également principalement sur la résistance en elle-même. Et puis, dans la logique ou dans les mentalités populaires aussi, disons que la libération, le 8 mai 45, ensuite ça va être les privations, les pénuries, qui vont beaucoup être étudiés. Et puis c'est vrai qu'après, on a tendance à délaisser un petit peu ces quelques années d'après-guerre. Et c'est en travaillant effectivement pour la citadelle et son musée de la résistance et de la déportation que j'ai pris connaissance de ce sujet-là qui n'était absolument pas exploré. Donc là, il y avait tout à mettre en place, en tout cas, pour découvrir une thématique qui était oubliée.
Oui. Alors rappelons qu'après le débarquement du 6 juin 1944, et les différentes libérations des différentes villes qu'il y a eu en France, bien sûr, Paris, etc. Et puis la libération de l'Allemagne par les troupes françaises, américaines et britanniques, il y avait sans doute des centaines, des milliers de prisonniers allemands.
Voilà, totalement. Les premiers prisonniers le sont bien entendu pendant la guerre. Il y a des prisonniers qui sont faits sur tous les fronts, tous les champs de bataille, tant du côté russe, en Afrique du Nord. Hein, là, on a déjà les premiers dès 1943. Et en Afrique du Nord en tout cas. Et puis en France, les premiers prisonniers sont faits dès le 6 juin 1944. Les prisonniers vont être gérés au fur et à mesure de la libération de la France, que ce soit dans des camps installés très sommairement, par exemple à l'extérieur. Les premiers camps de prisonniers sont les plages, hein, les plages du débarquement. On va les parquer ici en attendant de voir de quelle manière on peut les prendre en charge de manière un petit peu plus pérenne. Et au fur et à mesure de la libération de la France, des prisonniers vont être maintenus sur place, transférés de camp en camp. Et puis, on a également des prisonniers de l'armée allemande qui, sur les derniers mois, voire les dernières semaines, hein, parfois de la guerre, vont être arrêtés par les forces alliées en Allemagne, prisonniers de guerre, et certains envoyés sur différents autres pays que l'Allemagne, et notamment la France.
Combien la France va recevoir de prisonniers de guerre allemands?
Alors, il faut toujours être prudent, avec les chiffres, au fur et à mesure des périodes, au fur et à mesure des sources, etc. Disons que sur la totalité de cette captivité, qui commence à partir du mois de juin 1944 sur le territoire national même, hein, je précise, jusqu'à la fin du plan de rapatriement à la fin de l'année 1948. Je ne parle pas des prisonniers qui restent en France en 1949 parce que criminels de guerre. On a un peu plus d'un million de prisonniers de l'armée allemande qui se sont succédés sur le territoire national.
C'est un chiffre énorme, donc il faut trouver, je dirais, des endroits pérennes pour les loger, ces gens.
Voilà, au fur et à mesure, on a différents camps, qu'on appelle dans le jargon militaire des dépôts, sont mis en place. Hein. Dès 1945, il y a déjà une centaine de dépôts qui sont mis en place, donc bien sûr avec des commandants, une administration, avec des gardiens, des prisonniers. Et au fur et à mesure, on va avoir cette nomenclature de dépôts qui se développe, certains plus importants que d'autres, certains qui vont fermer avant, après. Voilà, il y a toute une logistique qui se met rapidement en place dès le milieu de l'année 44.
Oui. En tout cas, le ministère de la guerre, c'était comme cela qu'on l'appelait à cette époque-là, au moment du gouvernement provisoire de la République française, présidé par le général de Gaulle, c'est Besançon, la citadelle de Besançon. On peut le dire, c'est peut-être un terme un peu fort ce que je vais dire, mais c'est un site stratégique finalement pour les...
Totalement, totalement. Bien sûr, au XVIIe siècle, là, on est à l'apogée de la stratégie défensive. Et au fur et à mesure, cette place forte a été utilisée en fonction des besoins, hein, tant des besoins locaux que des besoins nationaux. Et puis, à partir là de cette fin de guerre, dès que la Besançon en tout cas est libérée, petit à petit, c'est le choix le plus évident qui soit dans Besançon pour maintenir captifs plusieurs milliers de prisonniers. Le choix est très vite fait à Besançon.
Oui. Combien de prisonniers sont accueillis entre juin 44 et la fin avril 1948 à peu
alors,
près ?
Alors, à la citadelle, les premiers prisonniers commencent à être pris en charge à partir de septembre, octobre 44. Hein, la ville, on le rappelle, est libérée le 8 septembre. Donc, dès ce moment-là, il y a des prisonniers qui sont faits dans la ville, puis dans les environs immédiats. Là, je n'ai trouvé que peu de sources qui m'évoquent vraiment ces quelques premiers jours, quelques premières semaines après la libération à Besançon. Par contre, à partir de la constitution officielle du dépôt à Besançon, en début octobre, le 9 octobre, vous l'avez précisé, 1944, là, on a déjà un afflux qui est très conséquent. Le premier effectif que j'ai trouvé m'est donné par un compte-rendu du comité de l'Internationale de la Croix-Rouge qui vient inspecter le camp en février 45, et il est précisé que 2128 prisonniers y sont enfermés. Après, au fur et à mesure de la période, concrètement, il y a presque, vraisemblablement, en tout cas selon les sources que j'ai trouvées, à peu près 6500 prisonniers qui se succèdent pendant les pas tout à fait 4 ans d'activité. On fait partie de la région militaire numéro 8 ici, donc c'était déjà une alliance Bourgogne-Franche-Comté. Il y a différents dépôts qui sont mis en place sur le territoire. Et là, à Besançon, c'est le dépôt 85.
Et un dépôt très important.
Et un dépôt, on va l'évoquer, un dépôt très important, c'est ça.
On va s'intéresser à ces conditions d'accueil, Anne-Laure Charles, parce que certes, c'est une citadelle où il y avait autrefois, au XVIIe, XVIIIe siècle, on parlait des bâtiments des cadets, par exemple, qui accueillaient. Mais est-ce que ces locaux, d'une certaine manière, était fait pour accueillir ces prisonniers ? Est-ce qu'on s'était préparé à les accueillir ?
Pas forcément un tel afflux. Effectivement, vous rappelez cette école de cadets, sur les plus de 3 siècles d'existence de la place forte, cette école de cadets qui a été là presque une dizaine d'années, avec le recul, on pourrait dire anecdotique, c'est ce long bâtiment des cadets qui a gardé ce nom-là.
C'est le nom toujours
aujourd'hui. Voilà, c'est la caserne principale, en tout cas, de la place forte. Au fur et à mesure des évolutions que les bâtiments ont subies, hein, notamment au 19e, on va rajouter des niveaux, etc. Mais disons que la place forte, à la base, était prévue pour à peu près 1000 personnes. Hein, quand là, déjà dès le début du fonctionnement du dépôt 85, on dépasse les 2000 personnes, c'est problématique, sachant qu'on va les mettre beaucoup au même endroit pour pouvoir les surveiller de manière optimale aussi. Hein. Là, non, le cubage d'air n'est pas respecté, par exemple. C'est impossible. Là, disons que les autorités font face à un afflux de prisonniers.
Ils sont dépassés par les événements, peut-être.
Totalement, oui, totalement, de tous les points de vue, que ce soit les effectifs, que ce soit au niveau du chauffage, au niveau de la nourriture, vestimentaire. Ce n'est pas typique de Besançon. Hein. Besançon va être une des villes, comme partout ailleurs, hein, qui va devoir faire face à cette captivité qui était prévue, mais peut-être pas dans cette ampleur-là. Et les premiers mois, effectivement, sont très difficiles.
Sont catastrophiques, parce que les conditions sanitaires, médicales sont très mauvaises, quand même. Ce qui m'a frappé en lisant votre ouvrage, c'est que il y avait des gens qui n'étaient pas malades et qui sont, qui tombent malades à la citadelle de Besançon.
Voilà, oui. Totalement. Il y a bien sûr, dès la création du camp, des prisonniers qui arrivent et qui sont blessés du front.
Oui.
J'ai retrouvé dans quelques actes de décès des blessés par éclat d'obus, par exemple. Après, par contre, on en a qui arrivent en courant du mois d'octobre, novembre, et qui décèdent à partir, par exemple, des mois de janvier, février, qui sont quasiment les plus terribles, début de l'année 1945. Et d'après, en tout cas, les archives hospitalières militaires que j'ai pu consulter, j'ai 80 causes de décès parmi les plus de 400 prisonniers décédés. Hein, donc on ne peut pas non plus généraliser à l'ensemble des prisonniers décédés. Mais sur les 80 causes précises que l'on a, il y en a plus de 50% qui sont liées à la sous-nutrition. Ouais.
Carrément à la sous-nutrition.
La majeure partie des actes de décès sont annotés par les médecins cachexie. Voilà, c'est-à-dire une sous-alimentation extrême. Donc on va avoir la cachexie, vraiment privée d'alimentation et le corps ne fonctionne plus, ce qui entraîne par exemple des dysfonctionnements des reins, des dysfonctionnements de la circulation sanguine. On a pas mal de morts de pieds gelés par exemple. Donc ça c'est directement lié à la sous-nutrition. Après on va avoir aussi les mauvaises conditions de détention, puisque quand beaucoup de personnes sont placées dans un même endroit, bien sûr c'est une propagation de microbes, de maladies assez extraordinaires. Et puis si le cubage d'air est insuffisant, toutes les maladies respiratoires vont se développer à vitesse grand V. Donc là, on a un petit peu plus de 30% également de causes de décès liées à cette promiscuité. Ou également des fractures. Normalement, on ne meurt pas de fractures. C'est la fracture qui est mal soignée qui entraîne la mort.
Voilà. Qui sont les personnes qui gardent ces prisonniers? Est-ce que c'est j'allais dire... l'armée de la Tassini, par exemple, ou des FFI, des anciens résistants?
Voilà, on va avoir un petit peu de tout au niveau des gardiens. Dans les premiers mois, effectivement, on a d'anciens résistants, donc plus ou moins longuement engagés dans la résistance. Hein. On a, donc bien sûr, hein, ces FFI. Très rapidement, à partir du premier hiver, on va avoir des troupes nord-africaines, hein, comme le précisent les archives du service historique de la défense que j'ai trouvé à Vincennes. Donc on a en majeure partie des gardes marocains et algériens.
Oui. Voilà, alors on va peut-être marquer une pause, puis on reviendra sur ce que vous appelez l'histoire de la captivité, parce qu'il y a des choses tout à fait extraordinaires que vous nous racontez là, à partir de fresques, de peintures que vous avez retrouvées des anciens prisonniers. Et puis on parlera, bien sûr, de ces fameux travailleurs libres, parce que certes, ces prisonniers étaient enfermés, mais ils pouvaient aussi aller dépanner chez les agriculteurs, les artisans, et puis peut-être d'autres entreprises. On marque une pause, puis on revient à vous dans quelques instants, Anne-Laure Charles.
RCF en Franche-Comté, à Belfort, sur le 88.4.
La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, la citadelle à l'époque du dépôt 85, camp de prisonniers de guerre d'octobre 1944 à avril 1948, un ouvrage signé Anne-Laure Charles, publié par les éditions Sêtre à Besançon. Alors, vous avez évoqué il y a un instant, Anne-Laure Charles, les conditions très difficiles qu'avaient ces prisonniers de promiscuité, de manque d'hygiène, de manque d'air aussi, puisqu'ils étaient, je peux le dire, entassés dans ces casernements.
Totalement.
Alors, il y a la Convention de Genève de 1929, est-ce que la Croix-Rouge internationale de Genève s'est préoccupée en particulier des dépôts des camps de prisonniers allemands en France et en particulier celui de Besançon ?
Alors bien sûr, le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a comme mission de faire respecter cette fameuse Convention de Genève de 1929 qui est censée donner des droits et donc protéger les prisonniers de guerre, peu importe leur nationalité et peu importe la puissance détentrice.
Comme donc, celle de cette convention qui pouvait s'appliquer aux prisonniers français
totalement,
en Allemagne.
Voilà, exactement. Les prisonniers de guerre français maintenus en captivité dans le Reich pendant la guerre sont protégés par cette même convention de Genève. Donc là, même après la capitulation nazie, ces prisonniers allemands, la guerre est terminée, mais en tout cas ces prisonniers de l'armée allemande, eux, restent des prisonniers qui sont soumis en tout cas à cette convention. Donc la Croix-Rouge effectue régulièrement des visites en France. Bon, à partir principalement, disons que l'automne, l'hiver 44, c'est encore un petit peu compliqué, mais dès le début de l'année 1945, la Croix-Rouge, si ma mémoire est bonne, va inspecter... Va effectuer à peu près 6000 visites de dépôts en France. Donc ils jouent un rôle vraiment important. Ils sont venus, en tout cas, d'après les sources que j'ai trouvées, 4 fois inspecter le dépôt 85 de Besançon. Les archives de Genève m'ont procuré les 4 rapports, les 4 comptes rendus de visites. Et c'est le premier, en fait, qui est établi par la Croix-Rouge en février 45 qui m'a donné le déclic de vraiment mettre en place un travail de recherche. Puisqu'il tient sur 4 pages et effectivement, il rencontre des difficultés.
Oui. Alors, les rapports, les facsimilés que vous rendez de certains rapports sont pas bons. C'est pas très bon ce qu'ils voient à Besançon.
Ils sont pas bons, mais ils sont réalistes.
Ils sont réalistes.
C'est le travail de la Croix-Rouge. Oui. Donc, c'est là où on apprend qu'il y a un peu plus de 2000 prisonniers à la citadelle. Il y a encore quelques officiers sur place, mais la citadelle n'a pas vocation à être un camp de prisonniers. Ils vont bientôt être transférés à Dijon sur un autre dépôt. On apprend également que celui qu'on appelle l'homme de confiance, le Hauptvertrauensmann des prisonniers, c'est une sorte de représentant des prisonniers, un trait d'union entre les prisonniers et l'autorité française. La Croix-Rouge a pu évoquer la situation avec cet homme et lui rend compte bien sûr de la sous-alimentation. Bon, la Croix-Rouge s'en était rendu compte même sans lui. Ce qu'ils appellent dans le compte-rendu des voies de fait.
Oui, des voies de fait.
Il y a eu énormément de problèmes là-dessus aussi, sur ce sujet-là. Donc le rapport fait 4 pages et sa conclusion est assez claire. Le camp nous fait une très mauvaise impression et il est de toute urgence de faire parvenir des secours. Ils évoquent déjà un taux de mortalité qui est élevé. On est en février, décembre 44, janvier, février et mars 1945. Sur ces 4 mois-là, on a plus de 300 décès. Et c'est-à-dire les 3/4 des décès que le camp va connaître. Oui.
Est-ce que, après ces rapports, les autorités militaires françaises en tiennent compte, se préoccupent du sort de ces prisonniers ?
Oui, totalement. Toutes les autorités, pas uniquement les autorités militaires. Donc le premier document qui vraiment marque, tire l'alarme, je l'ai trouvé au service historique de la Défense à Vincennes, c'est une lettre du général Delattre de Tassigny. À l'époque, il a établi son QG à Besançon. La lettre est très brève, très, très courte, très militaire. Il faut vraiment faire parvenir des secours au camp parce qu'il y a une certaine urgence. Donc là, on est quelques jours après la création du camp. Je crois que c'est 1 ou 2 semaines après la création du camp. Donc là, les autorités militaires sont au courant de la situation. Ils savent qu'il faut agir, mais il faut reprendre le contexte. La ville est à peine libérée, le pays ne fonctionne plus.
C'est encore le rationnement.
Le rationnement, on n'en est qu'à la moitié de son utilisation. Là, on va avoir énormément de problèmes avec les transports, les chemins de fer. C'est vraiment une situation qui est très, très complexe. Et puis, la seconde voix qui s'élève après Delattre de Tassigny, eh bien, c'est Monseigneur Dubourg, l'archevêque de Besançon à cette époque. Là, j'ai trouvé une partie de son discours qui est retracée dans l'hebdomadaire catholique cité fraternelle à l'époque. Oui. On est à Noël 1944 et c'est vraiment un cri de guerre de l'archevêque, puisqu'il a son palais au pied de la citadelle. Il voit les cercueils descendre régulièrement et vraiment il dit qu'on devrait avoir honte de cette situation-là.
Donc une autorité morale importante qui va commencer.
C'est ça, autorité militaire, autorité religieuse. Les autorités civiles aussi, hein, la ville essaie de prendre en charge en tout cas cette situation. Et puis le comité international de la Croix-Rouge qui va jouer un rôle extrêmement important. Quand il revient visiter le camp, on est à la fin de l'année 45, hein, ce comité international. Et déjà là, on a beaucoup d'améliorations qui sont précisées. Les mois les plus terribles se déroulent lors du premier hiver 44-45. C'est là où on dénote la ville de Besançon comparée au contexte national. Dans la France, en général, disons que la majeure partie des soucis de la sorte, hein, logistique, alimentation, habillement et autres, ces soucis-là vont se dérouler à partir de l'été 1945, au moment où les autorités américaines et britanniques cèdent les prisonniers aux autorités françaises. Donc là, on est submergé, on a quasi plus de 700 000 prisonniers à gérer, on n'en est pas capable. Donc à partir de là, la situation va être catastrophique. Tandis qu'à Besançon, la situation s'est déjà à peu près rétablie à partir du début de l'été. Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a ces prisonniers allemands, est-ce qu'ils ont subi des humiliations, de la violence de la part de leurs gardiens?
Alors,
est-ce que vous avez trouvé ça dans les archives?
Dans les comptes rendus de la Croix-Rouge, on évoque des voies de fait. Hein, donc là-dessus, la Croix-Rouge le précise bien. J'ai également une cause de décès sur un jeune homme de 23 ans. Il est victime d'une hémiplégie, donc je l'ai évoqué avec un docteur en médecine, hein, ce qu'il dit à 23 ans, on ne peut pas être victime d'une hémiplégie, c'est soit un accident, soit un coup. Un coup très violent. J'ai également une crise d'anus sigmoïdien. Donc là, c'est pareil, c'est la partie presque terminale du côlon, près de l'anus. Donc là, c'est certainement en tout cas un objet ou autre chose y est rentré. Et donc, il y a eu de gros dégâts. Et puis, j'ai un témoignage également d'un ancien prisonnier qui est toujours en vie aujourd'hui. Il a été témoin de deux prisonniers qui ont tenté de s'évader. Ils n'ont pas réussi, ils se sont fait prendre. On était en hiver 1944-45, le climat...
C'était un hiver très froid, 45, voilà. Je crois, l'hiver 44-45.
Exactement.
Très, très rigoureux.
En tout cas, il gelait dehors, ça, il s'en souvient, puisque l'officier français a fait mettre ses deux prisonniers presque nus dehors et leur a versé un seau d'eau glacée dessus.
Mais c'est des cas très épisodiques, j'allais dire, très rares peut-être quand même.
Les sources ne me permettent pas de dire si oui ou non c'était rare ou si ça revenait assez souvent. Mais en tout cas, les sources leur tracent suffisamment.
Vous parlez d'évasion. Est-ce qu'on, d'une manière ou d'une autre, Anne-Laure Schall, est-ce qu'on pouvait, entre 1944 et 1948, de ces camps de prisonniers de guerre allemands, s'évader de la citadelle de Besançon?
Alors, de la citadelle, vraisemblablement, il y a eu une évasion qui a réussi. On est à la toute fin de l'année 1944, vraisemblablement. Après, peut-être qu'on ne l'a pas repris à Besançon et un petit peu plus loin, hein, mais je n'ai pas trouvé de traces comme quoi cette évasion avait échoué. C'est vraiment la seule qui apparemment a réussi, mais non, c'est très très compliqué. Vauban avait bien prévu ça, si ce n'était pas l'utilité première de sa place forte, bien sûr. Oui. Mais non, quand il y a des évasions, c'est notamment à partir des commandos de travail, puisque ces prisonniers vont être dispatchés un petit peu partout dans la région. Donc là, c'est plus facile de s'évader que d'une place forte.
Alors, on va parler, peut-être que ce sera dans l'émission qu'on parlera de ces travailleurs libres, comme vous l'évoquez dans votre ouvrage, mais on va parler quand même d'une affaire qui a marqué. Il y avait un général allemand de haut gradé, hein, on pensait que c'était lui d'ailleurs qui avait perpétré le massacre d'Oradour-sur-Glane en juin 1944, vous allez nous le dire si c'est vrai, mais le fameux général Brodowski, qui a été assassiné à la citadelle de Besançon. Dans quelles circonstances et pourquoi, Anne-Laure Charles?
Alors là, il a fallu également recroiser énormément de sources. Je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, dans mon ouvrage. Je
c'est des hypothèses.
Les sources, voilà, j'émets plusieurs hypothèses, je recoupe les sources, tant orales que écrites. Donc pour resituer le contexte, il est général-lieutenant, c'est un grade qui n'existe pas en français, mais c'est un général, on dirait 4 étoiles.
4 étoiles, oui.
Donc ce général,
un général de corps d'armée,
allemand,
oui, oui.
Voilà, donc il fait partie de l'armée de terre, hein, la Wehrmacht et la Heer. Il a effectué plusieurs missions, tant sur le front russe que sur le front français. Il est responsable de cette... on va dire, bon, c'est un nom un petit peu barbare en allemand, c'est le Hauptverbindungsstab, oui. Hein, le HVS, qui est en gros le supérieur des fameuses commandanturen installées
dans les grandes
villes. Au point de vue départemental et régional. Donc lui, il a toute une région avec plus d'une dizaine de départements français à gérer. Donc il est en charge de la sécurité de ses troupes d'occupation.
Clermont-Ferrand, je crois, le sud-ouest,
voilà,
de la France.
C'est ça, Clermont-Ferrand,
Limoges,
la Creuse, la Corrèze,
oui.
Limoges, tous ces départements du centre de la France. Donc il est en charge de la sécurité de ses troupes. Et il arrive en France, hein, au printemps 1944. Et c'est au moment où il exerce ces responsabilités-là qu'effectivement, une division SS, la division Das Reich, commet les massacres à Tulle, les massacres à Oradour-sur-Glane. Il y a eu un don il y a quelques années au musée de la résistance et de la déportation, qui est le journal de guerre de ce Hauptverbindungsstab. Puisque le mot est très compliqué à dire, on a tendance à abréger avec le journal de guerre de von Brodowski. Non, ce n'est pas von Brodowski qui écrit ce journal de guerre, c'est cette institution à la tête de laquelle il a été placé. Donc on voit les décisions prises, on voit les mouvements de troupes, etc. Donc on a bien sûr une trace du massacre d'Oradour-sur-Glane, sans le recul que nous avons aujourd'hui en 2016.
Mais on n'est pas certain que ce soit lui.
Donc rappelez-vous le procès de Bordeaux en 1953,
Bordeaux, oui,
ça a été très très compliqué. Vraisemblablement, le général Lamerding était à la tête des opérations, sans forcément demander la...
Général Borowski.
Bien sûr, disons qu'à cette époque, voilà, il faut prendre toutes les...
Les troupes allemandes avaient une certaine autonomie, j'allais dire. Oui.
Bien sûr, et surtout quand il s'agissait de la répression vis-à-vis de ce qu'ils appelaient
les terroristes. Absolument.
Voilà. Donc apparemment, en tout cas, des différentes sources qu'on a, des différents auteurs, c'est... vraisemblablement un préfet français qui apprend ce drame-là à von Brodowski. Sauf que von Brodowski détenait sur lui en tout cas le journal de bord, hein, de son institution, et il est fait prisonnier en Haute-Saône avec ce journal-là. Donc les personnes qui l'ont capturé ont lu de l'allemand. Il n'est pas facile à lire, hein, loin de là. Déjà, l'écriture n'est pas évidente. On arrive à lire clairement Oradour-sur-Glane. Donc, imaginez-vous le contexte. Hein, on est fin septembre, quand il est capturé, fin septembre 1944. On trouve un général au gradé. On trouve un document sur lequel il y a marqué Oradour. Bon, l'ambiance est déjà toute tracée. Donc,
absolument,
ce général est transféré à la citadelle de Besançon en attendant son transfert sur le camp de Dijon.
Oui.
Et puis, il est effectivement au bout de quelques jours, donc il est interrogé et il est abattu par son gardien pour tentative d'évasion.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est un crime qui est quand même assez, assez mystérieux. On dit qu'il a essayé de s'évader, mais est-ce qu'il est véritablement... oui.
Alors, j'ai réussi à retrouver son gardien à l'époque, il avait 17 ans, hein, il a 17 ans, il fait partie de la résistance.
Il est mort il n'y a pas très longtemps, je crois, d'ailleurs, ce gardien. Oui, il vit toujours, non?
Alors, aux dernières nouvelles, il était encore en vie il y a quelques mois, malade, âgé, mais il était encore en vie.
Oui.
Et donc, selon lui, le général a ouvert la porte qui n'était pas verrouillée, vu l'état de la citadelle à cette époque, les portes ne fermaient pas à clé. Hein. Et le jeune homme avait besoin de se soulager, il tournait le dos de la porte de la cellule de von Brodowski. Von Brodowski a ouvert la porte, lui a foncé dessus, et ce jeune lui a tiré une première balle dans le ventre après avoir crié « halt ». Le général ne s'est pas arrêté, il a retiré une deuxième balle dans la tête.
En tout cas, ça va animer la fureur d'Adolf Hitler, du haut commandement allemand, puisque l'Allemagne n'est pas encore occupée à cause de ce moment-là. Hein. Il y a les bombardements, mais...
On essaie d'étouffer l'affaire à Besançon, parce qu'il y a encore plus d'1,5 million de prisonniers
dont des généraux
français
dans des forteresses en Allemagne.
Voilà.
Et là, il va y avoir des des représailles en quelque sorte,
oui,
Anne-Laure Charles.
Exactement. Hein.
On va terminer là-dessus.
Le gouvernement nazi met des représailles en place et c'est un général français, le général Gustave Meny, qui est transféré, soi-disant, d'un oflag à un autre. Et il est abattu en cours de route, totalement.
Il n'a qu'une balle dans le dos, quand même, dans la tête. Voilà.
Et avec la même raison évoquée en allemand, Auf der Flucht erschossen, abattu pour tentative d'évasion.
Voilà. Donc la vengeance était bien là. On reviendra dans la prochaine émission sur les travailleurs libres et puis surtout ce travail culturel qu'ils menaient, ce que menaient ces prisonniers, parce que vous avez trouvé, on l'évoquera, des fraises tout à fait extraordinaires dans certains lieux de notre citadelle. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, La captivité de guerre de l'armée allemande à Besançon, La citadelle à l'époque du dépôt 85, aux éditions Sêtre. Et puis, rappelez un site internet, parce qu'il y a beaucoup de choses sur un site internet que j'ai pu visionner.
J'ai créé un site internet pour mettre en place une partie de mes travaux, mettre en ligne quelques photos, quelques vidéos également, du contenu, mon actualité. Donc, vous pouvez tout simplement trouver ce site à l'adresse suivante, www.pga, donc comme prisonnier de guerre de l'Axe, pga-du-milieu, besançon sans la cédille.fr.
À la semaine prochaine, Anne-Laure Charles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne semaine à vous.